des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous qui écoutez, oui, religieusement, des livres plein les oreilles, peut-être par balado, peut-être via Canal M, la radio de Vues et Voix, peut-être aussi via la télévision ou encore CKVL. Je suis Clotilde Seille et je suis très heureuse de vous présenter une émission toute spéciale aujourd'hui. Ne serait-ce qu'avec les initiales de son nom, elle était certainement prédestinée à devenir un jour première ministre du Québec, cette province qu'elle a toujours voulu appeler un pays. À l'occasion de la sortie papier et audio de son livre « Au-delà du pouvoir », Pauline Marois, qui est venue elle-même lire cette biographie chez Vues et Voix, nous fait aussi la grande joie de répondre à mes questions. Le temps de la joindre, on écoute cette chanson si importante à sa vie, cette chanson qui lui a été chanté à elle par le grand Gilles.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court,
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler
Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser.
Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang. Chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Peu importe la longueur des années, déménager, c'est toujours un grand dérangement. Ce moment propice à faire le tri, à choisir les objets à garder et ceux dont on se départit. Ça nous amène souvent à revisiter des chapitres de notre vie. En vidant les armoires, des souvenirs et des visages nous apparaissent. Notre propre visage aussi, celui du temps passé. Tous ces visages qui ont été nôtres, que les années tannent ou enluminent. C'est la somme d'une vie qu'on place chaque fois dans des cartons. C'est le moment de constater, dans le tourbillon du départ, la somme de ce que l'on est, et de se déraciner pour se refaire un nid ailleurs. Partout où je m'installe, j'aime prendre racine. C'est vrai pour les lieux où j'ai vécu, et c'était vrai aussi pour les fonctions que j'ai eu le privilège d'occuper. Prendre racine, c'est pour moi apprivoiser l'espace, l'habiter, y vivre des joies et des peines, y recevoir les gens que j'aime, créer des liens avec le voisinage et avec les personnes qui lui donnent vie.
Bonjour, Pauline Marois.
Bonjour, Clotilde.
Ça a dû vous faire drôle, peut-être, de réentendre cette chanson que nous connaissons tant et qu'à chaque fois que nous redécouvrons, et vous vous êtes fait chanter cette chanson-là par Gilles Vigneault en 2012. Oui. Ça a dû être un moment d'une émotion.
Absolument. Et à chaque fois que je l'entends, ça vient me chercher quelque part. Parce que c'est tellement ce qui a animé ma vie que de la recherche du pays. Et donc, je me retrouve à travers sa chanson. Et ça me fait tout drôle aussi d'entendre ma voix.
Oui.
Oui, qui raconte.
Alors oui. Quelle expérience allez-vous garder de cette lecture à haute voix que vous avez choisi de faire dans les studios chez Vues et Voix?
J'ai été étonnée du plaisir que j'y ai trouvé. Au départ, je n'étais pas trop certaine, mais j'étais bien accompagnée, entre autres par vous, qui m'avait donné des clés. C'est vrai, je le dis sans flatterie, sans fausse flatterie, vous m'avez donné des clés pour éviter quelques erreurs qui auraient pu rendre l'écoute du livre un peu plus fastidieux, si on veut. Alors que, dans les faits, une fois que ça a été parti, c'est drôle parce que de lire à voix haute sa vie, finalement, puis ce qu'on a écrit, ce qu'on a vécu, ça nous rappelle encore plus, je dirais, que lorsqu'on le lit. C'est assez particulier comme impact, si on veut. C'est comme si on revivait chaque moment en lisant le livre à haute voix. Alors, j'ai beaucoup aimé l'expérience, finalement, et je recommande à ceux et celles qui écrivent et qui en ont un peu le goût. Ça prend... faut quand même avoir une voix qui passe un peu, hein, parce que j'imagine que ça doit être difficile pour Clotilde qui est habituée, là, vous connaissez un peu. Hein.
Mais ne vous en faites pas, votre voix, d'ailleurs, vous avez pu l'entendre, passe très, très bien. Vous savez, moi, je dis toujours, Madame Marois, un bon lecteur, c'est quelqu'un qui est généreux de sa personne et c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de tricher. C'est quelqu'un qui va être vrai et je pense que c'est pas mal vous, ça.
Pas mal, pas mal, oui. j'ai essayé dans ma vie de ne jamais tricher. C'est drôle parce que je fais une présentation sur le leadership à des gens qui sont en formation, qui sont des gens qui sont dans des organisations, qui sont des leaders. Je dis cela on me demande un peu quels sont les points de vue que j'ai sur le leadership, comment je caractérise le leadership on parle du mien aussi. Et je dis toujours, il faut pas tricher dans la vie. L'intégrité, c'est fondamental. Et vous allez être un bon leader si on vous croit, on vous fait confiance. On va vous faire confiance si vous êtes intègre et si vous restez vrai. Et ça veut dire ne pas tricher, madame.
Pauline Marois, 411 pages de ce livre qui, au moment où cette émission va être diffusée, des livres pleins les oreilles, et au moment où cette entrevue sera disponible, votre livre sur papier et en audio sera donc disponible au-delà du pourvoir. 411 pages, une carrière politique, une vie de mère, une vie de grand-mère, une vie de femme, une vie de travail, de larmes, de grande joie et surtout cette volonté farouche depuis toujours de faire d'une province un pays. On ne pourra évidemment pas faire le tour en détail, Pauline Marois, de tous vos accomplissements personnels ou politiques. Alors, j'ai choisi de retenir des mots dans le livre, des phrases, des dates ou des noms sur lesquels je vais vous demander de rebondir. Évidemment, peut-être assez rapidement, même si c'est pas facile, on va faire ce qu'on peut, d'accord?
D'accord.
On va commencer par le titre. Au-delà du pouvoir. Bon, pour moi, là-dedans, il y a vraiment deux choses. Il y a l'aspect au-delà, c'est-à-dire l'aspect en dehors de la politique, qui est une partie essentielle de vous, notamment la famille, celle qui vous a élevé et celle que vous avez élevée. Et puis, il y a le pouvoir. Et là, je me disais, le commun des mortels est toujours convaincu qu'un chef, ou une chef dans votre cas, a le pouvoir. Mais l'a-t-il vraiment? Ce livre aurait-il pu s'appeler « Au-delà du vouloir »
Oui, il aurait pu facilement s'appeler « Au-delà du vouloir » parce que le pouvoir a ses limites et c'est heureux parce que, vous savez, le pouvoir absolu n'est pas souhaitable non plus parce que ça mène à la dictature.
Voilà.
Et ça, c'est important. Mais par contre, le pouvoir, ça reste un moyen puissant pour changer les choses. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes, aux femmes, que je souhaiterais plus nombreuses en politique. C'est un instrument puissant, le pouvoir. Tant que ça demeure un instrument, il y a des contrepoids dans nos sociétés. On vit dans des démocraties, il y a l'opposition qui surveillent ce que font les gouvernements, qui questionnent, il y a les citoyens qui prennent parole, etc. Mais il reste que le pouvoir, c'est un outil. Et pensons à tous ces changements qui ont pu être apportés. Puis moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai soutenu et réalisé, et celui de la politique familiale avec oui. Les CPE, avec les congés parentaux. Imaginez Alice Payette qui a permis de changer le code civil en reconnaissant mieux l'égalité entre les hommes et les femmes. On a plein d'exemples d'engagements qui ont été pris par des personnes politiques oui. et que le pouvoir a rendu possible.
Possible et qui a changé la vie de bien du monde. Je pense à cette Absolument. Femme, Chantal Chassé, je pense, qui vous écrit une oui. lettre à un moment donné tellement jolie où elle dit que littéralement, oui. Vous avez changé sa vie.
Absolument. Et que pour ça, ça aurait valu la peine de m'engager en politique.
On va remonter à votre enfance, à votre oui. jeunesse.
oui.
Pauline Marois, à un moment donné, vous écrivez « Maurice Richard et Doug Harvey me fascinaient pas mal plus que Louis Saint-Laurent et Duplessis.
» Écoutez, je viens d'une famille modeste, bien sûr, que la politique intéressait, en particulier mon père, mais de loin. Et c'était un plaisir retrouvé tous les samedis soirs, parce qu'on avait le hockey le samedi soir, d'écouter le hockey avec mon père. Mon père était un fanatique du Canadien et il se fâchait contre les joueurs qui jouaient mal, il critiquait quand la puck rentrait pas. Et je vous raconte une petite chose absolument particulier que peu de gens connaissent. Je faisais des scrapbooks à l'époque, vous savez, une mm-hmm. collection de photos ramassées dans les journaux, d'articles,
collages, tout ça.
Des collages, eh bien j'en ai fait sur les coupes Stanley gagnées par les Canadiens. Alors voilà.
une autre phrase. En fait, c'est pas tellement une phrase, c'est Monsieur l'évêque.
Oui.
Vous dites Bernard Landry, vous parlez de Jacques oui. Parizeau, mais vous parlez de Monsieur l'évêque dans votre livre oui. Au-delà du pouvoir, Pauline Marois.
Absolument, j'ai toujours eu le plus grand respect pour Monsieur l'évêque. Pour moi, c'était un grand homme qui saisissait tellement bien l'âme des Québécois, qui nous a guidés vers plus de confiance, vers plus de fierté. Et pour moi, c'est rester un homme profondément respectable, qui était aussi, qui était une personne qui était très respectueuse aussi, justement, des citoyens, des citoyennes. Et ça, il nous le rappelait très souvent, que nous étions redevables à ceux-ci qui nous avaient confié des mandats et qu'on ne devait pas outrepasser nos compétences, nos responsabilités ou peu importe. Mais c'était vraiment un grand monsieur, Monsieur l'évêque. C'était un homme de cœur, un homme d'engagement qui croyait à son pays aussi, à son peuple, même si parfois il était un peu critique à notre endroit.
Il y a aussi un aspect de vous, bon, qui n'est pas passé complètement inaperçu. On le sait que vous avez élevé 4 enfants. Ce qu'on sait peut-être moins, et ça vous l'écrivez à un moment donné dans le livre Pauline Marois, en l'espace des 4 années qu'a duré mon premier mandat, j'ai mis au monde 3 enfants.
C'est vrai que peu de gens le savent. Je suis arrivée...
C'est fou.
C'est complètement fou. Je repense à ça et je me dis, comment ai-je pu faire ça finalement? Bon, mais en fait, c'est arrivé. Je suis arrivée en 81. J'étais à 10 jours, 11 jours de mon accouchement. J'ai été élue le 13 avril. J'ai accouché le 24 avril. J'avais tellement marché, le bébé est venu tout seul. J'ai presque pas eu de contractions. J'étais très, très en forme. J'ai eu un autre en mi-mandat. Puis un autre à la fin du mandat. Voyez-vous, j'avais 30 ans, 31 ans, 32 ans. Je voulais avoir une famille, une grande famille. J'en voulais 5, mais finalement, on en a 4. Et je savais que le temps comptait aussi.
Oui.
Et d'autre part, je voulais que mes enfants soient rapprochés parce que je trouvais que c'était plus facile pour les contacts entre frères et sœurs. Et puis, ça faisait une petite fratrie très, très tissée-serrée.
Tissée-serrée.
Donc, voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé avec mon conjoint qu'on aurait les enfants même dans les circonstances où je me trouvais. Et j'envoyais un message aussi. Peut-être que j'ai exagéré un peu, par exemple, en venant trop vite au travail et tout. Mais
oui.
Je voulais envoyer un message.
Oui, parce que... Oui. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre, mais il faut que les gens sachent que ça n'a jamais pris plus de 2 semaines avant que vous retourniez au travail.
C'est ça, absolument. D'ailleurs, il n'y a pas de congé parental, il n'y a pas de congé maternité pour les députés, ce qu'on devrait corriger, même quand on est ministre. Mais le message plus négatif que ça envoyait, c'est que tout le monde ne peut pas faire ça, et puis c'est pas souhaitable non plus qu'on fasse ça. Qu'on puisse prendre du temps pour soi, avec son enfant, etc. Bon, j'étais bien entourée, j'avais mon conjoint, j'avais quelqu'un qui nous aidait à la maison et tout, mais il reste que c'est pas nécessairement... Ça, c'était pas la bonne partie du message. L'autre partie du message qui était celle que je souhaitais qu'il soit bien reçu, c'est oui, c'est possible de concilier la famille, le travail, la famille et le politique. Il y a des conditions à avoir. Et vous savez, l'idée de mettre en place des services de garde, ça vient aussi de cette profonde volonté que j'ai toujours eue depuis le début de mon engagement politique, qu'on devait, les meilleures mesures pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour l'autonomie des femmes, c'était des mesures de services de garde, entre autres, qui permettaient à la femme de retrouver son autonomie, de choisir si elle le souhaitait ou non, d'aller sur le marché du travail, de faire des études, etc. Et surtout d'avoir l'autonomie financière.
Pauline Marois, à un moment donné, vous écrivez que de toutes les fonctions ministérielles, l'éducation est celle qui vous a finalement le plus passionnée.
Oui, sans réserve, je le répète encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est l'avenir. C'est nos enfants, c'est la société de demain, c'est celle qui aura permis à des créateurs d'exister, à des scientifiques de faire des recherches, à des sociétés finalement de grandir, de se développer, parce que plus une société est formée, plus les citoyens dans une société sont formés, ont accès à de l'information, ils sont mieux capables de prendre en main leur vie, d'avoir de meilleures conditions de vie en général, mais aussi une meilleure qualité de vie, au sein de la santé, etc.
Et si vous me permettez l'expression, vous êtes allé à bonne école parce que pour vos parents, c'était essentiel aussi. Je voudrais qu'on entende un autre extrait à ce sujet, lu par Pauline Marois, bien sûr.
Même si la vie était loin d'être triste chez nous, mes parents savaient que notre milieu de vie limitait nos chances pour l'avenir. Ils voulaient mieux pour leurs enfants. S'instruire, c'était à leurs yeux se donner les moyens de bien vivre, d'avoir une profession, de s'épanouir. Et c'est ce qu'ils souhaitaient plus que tout, que leurs 5 enfants se construisent une vie à la mesure de leurs ambitions. Mon père, quant à lui, avait quitté l'école très tôt pour apprendre sur le tas son métier de mécanicien. Il l'a regretté toute sa vie. Quand on lui posait la question, il répondait parfois qu'il avait une 3e année primaire, parfois qu'il avait une 5e année. Il ne se souvenait jamais précisément du moment où il avait arrêté. Il n'avait pas eu la chance d'aller longtemps à l'école, mais il était habité par le goût de comprendre, de découvrir, de voyager. Une passion que sa situation économique ne lui a pas permis de satisfaire. J'ignore s'il a caressé des ambitions professionnelles plus précises dans sa jeunesse, morte dans l'œuf, faute de moyens. Reste que l'instruction, pour lui, c'était un Eldorado que la vie ne lui avait pas permis d'atteindre.
C'est ça, vous étiez allée à bonne école, hein, Pauline Marois.
D'accord, j'entends ça et puis ça m'émeut encore.
C'est vrai?
Oui, ça m'émeut parce que, d'abord, on a eu une enfance très heureuse chez nous, avec ma maman, avec papa, et il y avait une telle désir qu'on aille plus loin, qu'on aille longtemps à l'école, qu'on aille à l'université. J'étais quand même un ouvrier. Maman avait enseigné dans une école de rang.
Oui.
À l'époque, il n'avait pas beaucoup de sous, il n'avait pas beaucoup de moyens, mais il sans arrêt nous disait « Notre héritage, votre héritage, ça va être vos études. » Et tous les 5, nous sommes allés à l'université, c'est quand même exceptionnel et très rare dans nos milieux.
Les cinq.
Et donc, quand j'entends ça, ça décrit tellement bien ce que nous disait mon père, ce qu'il souhaitait pour nous, ce que souhaitait ma mère pour nous. Et je ne les en remercierai jamais assez. Parce que si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait une base très solide. Et c'est grâce à eux que j'ai acquis cette base.
Alors, Madame Marois, première ministre, première femme, première ministre du Québec, vous écrivez à un moment donné, ça ce sera un passage un tout petit peu plus long, les grands défis des débats quand on est une femme. Hein, donc ça, c'est le sujet. La confiance sans être arrogante, la pugnacité sans qu'on puisse vous accuser d'être hystérique, Être impeccable, mais sans avoir l'air trop riche. Avoir la stature d'une chef, mais sans paraître arriviste. Quel constat et quel contrat. Ouf, on nous en demande beaucoup, hein.
Mais ça décrit bien aussi.
Mais oui, c'est exactement ça.
Absolument. Puis encore aujourd'hui, on aime mieux nous retrouver, même si on est dans des postes de responsabilité, on aime mieux nous retrouver comme des collaboratrices, comme des patronnes, comme être les chefs de parti, être les premières ministres. C'est pas toujours évident pour les boys club, si on veut.
que j'appelle très gentiment les cravatés, mais bon.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, c'est que le regard que l'on pose sur une femme est toujours un regard un peu différent de celui qu'on pose sur une femme. C'est toujours le double standard.
Absolument.
Hein? Alors, on va regarder nos vêtements, on va regarder notre allure, notre voix. Si on a l'air fatigué, peut-être parce qu'on n'est pas capable d'assumer la fonction, tandis que pour un homme, c'est parce qu'il a travaillé fort. Toutes sortes de petits exemples comme ça, mais il reste que, à un moment donné, moi, j'ai décidé de faire fi de cela. Et je me dis, je vais me concentrer sur ce que je veux faire, sur ce que j'ai à dire, et puis on me prend comme je suis. Mais après avoir quand même changé quelques éléments, pas de ma personnalité, mais d'aspect plus matériel, si on veut, les vêtements, les cheveux, etc., là, je suis revenue à des choses très, très sobres, très simples. Je me suis dit, comme ça, ils vont arrêter de me parler de ça, ils vont m'écouter. Alors voilà, mais c'est un peu ridicule, parce que pourquoi j'aurais pas pu vivre mes petites folies comme les hommes le font, mais le regard est pas le même, qu'on pose sur nous les femmes. Et voilà.
Vous écrivez à un moment donné, notre défaite de 2014 a été une grande peine d'amour, ma peine dort en moi intacte. Vous y repensez encore, Pauline Marois, ça vous fait encore mal?
Oui, quand j'y repense, oui. J'y repense, j'essaie d'y penser le moins souvent possible.
Oui.
Et c'est surtout quand je vois des grands projets auxquels j'avais rêvé, que j'avais mis en place, j'avais commencé à mettre en place. Et puis là, on en a un qui est à l'évidence, qui serait tellement utile maintenant. Vous savez qu'on avait proposé un nouveau programme d'assurance autonomie. En fait, c'était un nouveau projet qui changeait complètement la donne pour les personnes âgées, qui permettait aux personnes âgées de choisir si elles voulaient demeurer à la maison ou aller en centre d'accueil ou d'hébergement, même si dans certains cas, on n'avait pas le choix parce que les gens avaient leur situation physique était trop détériorée. Mais on avait mis de l'avant ce grand projet avec Régent Hébert, qui était un gériatre, c'est-à-dire quelqu'un qui avait travaillé longtemps avec les personnes âgées, qui avait réfléchi à toutes ces questions. Et je me dis, le gouvernement qui nous a suivis a mis ça de côté immédiatement, a mis ça à la poubelle, et puis ça aurait été tellement utile, ça aurait été envoyé un message tellement différent de celui qu'on vient de vivre avec la COVID. Alors, donc, j'ai des regrets très concrets, associés à des réalités là, auxquelles je m'étais attaquée, mais c'est comme ça, la démocratie, la population a choisi, et puis il faut assumer. Mais j'ai toujours eu une grande peine, je l'ai toujours quand j'y pense, sachant que on aurait pu faire avancer le Québec d'une autre façon que le gouvernement qui nous a suivis l'a fait.
J'ai bâti mon bonheur, mais je sais fort bien ma chance. Ça aussi, c'est une des phrases. Ben, c'est là-dessus que se finit le livre. J'aurais peut-être pas dû le dire. Je déflore peut-être quelque chose.
Non. pas du tout. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Moi, je crois que on doit le fait d'être heureux. D'imaginer ce qui peut être le plus agréable pour nous, en sachant qu'on a des contraintes dans la vie, etc., ça nous rend plus capables de nous engager, d'aider les gens, ça nous rend plus généreux, quelque part. Ça a l'air drôle de dire ça, là, mais quand on est bien dans sa peau, qu'on fait des choses qu'on aime, on est meilleur dans ce qu'on fait. Je suis persuadée de ça. Et c'est un peu ce message-là, finalement, que j'envoie en terminant.
Mm-hmm. L'autre message que vous envoyez, c'est « Avancer, j'ai confiance ».
Absolument. Et ça, je le dis aux jeunes, je le dis aux femmes. Je ne suis pas inquiète pour l'avenir. J'ai parfois des petits moments d'inquiétude, bien sûr. Mais quand je pense par où sont passées les générations précédentes, celles à laquelle j'appartiens, je me dis « Demain, on a des jeunes avec l'imagination, qui sont généreux, qui ont des idées innovatrices, qui ont le goût de défoncer les portes. moi je dis, allez, je vous fais confiance et il faut donner, continuer à donner le meilleur de vous-même. La société sera différente de celle qu'on a construite, pas grave. Elle sera sans doute meilleure et c'est ça qu'on souhaite par ailleurs.
Les politiciens sont des personnes comme les autres. Vous êtes une personne comme les autres. Je sais qu'à un moment donné, d'ailleurs, vous l'écrivez aussi. On vous a un petit peu catalogué comme une femme snob, bourgeoise, etc. Et moi qui vous ai côtoyé, les gens de chez Vues et Voix qui vous ont côtoyé, nous, maintenant, on sait à quel point c'est faux, Pauline Marois. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée quand vous avez écrit « Les politiciens sont des personnes comme les autres », vous faisiez référence à ce moment d'émotion. Tout le milieu a été très ému lorsque Lucien Bouchard a été atteint par cette affreuse maladie. Et c'est dans ce contexte-là que vous nous avez rappelé que les politiciens sont des personnes comme les autres. Avant qu'on se quitte, Pauline Marois, je voudrais quand même citer, parce que Élise André-Héroux et Laurent Aymon ont été des précieux collaborateurs aussi dans l'écriture de ce livre-là. Alors je m'en voudrais beaucoup de ne pas les avoir cités. Je voudrais aussi rappeler à tout le monde que ce livre est maintenant sorti en papier, mais en audio aussi. Et je dois dire que lu par vous-même, de façon excellente, c'est pas toujours le cas malheureusement. Parfois les gens ont la plume, parfois les gens ont la culture, ont l'instruction, oui. Mais au moment de lire, vous l'avez dit vous-même au début de cette entrevue, c'est un drôle d'exercice quand même.
Oui.
Mais je le recommande à tout le monde. Ce livre se retrouve évidemment sur le catalogue de Vues et Voix, un livre audio.vuesetvoix.com notamment. Et maintenant, vous allez continuer quoi, de cultiver vos fleurs, de faire la bouffe pour tout le monde, parce que ça,
oui,
c'est important. Mais
je l'ai fait pas mal pendant. Mais je vais faire autre chose.
Oui, vous faites aussi beaucoup de bénévolat, hein, pour des fondations,
oui,
notamment.
Oui, je m'engage beaucoup,
ça.
Et tout ça. Il y a une cause qui me tient beaucoup à cœur et qui, j'espère, va aussi mobiliser les énergies de d'autres personnes, dont de notre gouvernement. C'est la langue française. Je travaille bénévolement à la Fondation pour la langue française, puis veux faire la promotion du français, aimer le français, avoir du plaisir à le parler, être fière de parler français en chantant, parler français en faisant des affaires, parler français en recevant et accueillant le monde qui vient de partout à travers la planète. La fierté de vivre dans un pays, presque pays, le Québec, de vivre en français.
Merci beaucoup, Pauline Marois, encore une fois. Merci d'avoir écrit aussi ce livre qui va permettre à tellement d'autres gens de découvrir la vraie personne que vous êtes.
Bien, merci beaucoup, Clotilde. Ce fut très agréable et merci de m'avoir accompagnée pour que ce livre soit lu et entendu de façon plus agréable.
Mais je vous en prie. Pauline Marois, Au-delà du pouvoir, maintenant disponible en audio et bien sûr dans toutes les librairies. Au revoir, Madame Marois.
Au revoir, Catherine.
C'est toujours des livres pleins les oreilles. Alors, en cette seconde partie à l'émission des livres pleins les oreilles, on va faire dans la fiction, on va faire dans la science-fiction et on va faire dans la nouvelle plus vraie que vraie, du moins au début, qui n'était en fait à l'arrivée que de la fiction. Vous me suivez ? Ouf. Tiens, d'abord, cette musique qui devrait peut-être vous mettre sur la voie. Thank you. Oui, la musique de It, bien sûr, de Stephen King, cette fameuse valse qui était signée. Est-ce que c'était Monsieur Hoffman? Je pense que oui. Tout d'un coup, j'ai un doute et j'ai plus le papier sous les yeux, mais je pense que oui. « Au rage, au désespoir, au servile industrie ». C'est le titre d'un papier que j'ai trouvé dans l'actualité.com qui nous dit qu'alors que le vent soufflait dans les voiles du navire, Stephen King est stoppé net dans son élan, perdu sur une mer d'huile. Le grand projet d'adaptation « The Eyes of the Dragon », on va dire ça en français, « Les yeux du dragon », publié notamment chez J'ai lu en français, traduit par Evelyne Châtelain, eh bien... le projet qui devait voir le jour chez Ulu vient de prendre fin avant même que d'avoir débuté. C'est le romancier Seth Graham Smith qui l'a annoncé, reprenant sa casquette de réalisateur. Pourquoi ? Eh bien, c'est annulé. Eh bien, le projet se heurte à des contraintes économiques et budgétaires qui bouleversent toute cette production. J'étais sûre de lire comme réponse la COVID. Nanana. Non, on n'a pas l'air de parler de ça vraiment. On dit que par contre en 2019 il n'y aura eu que 4 adaptations cinématographiques qui ont vu le jour, inspirées des romans du maître du suspense et de l'horreur qu'est Stephen King, l'écrivain qui compte aujourd'hui parmi les auteurs les plus prisés d'Hollywood bien sûr, tant son œuvre a une forte propension à faire vaciller l'audiovisuel. Il faut rappeler que Les yeux du dragon s'était sorti en 1984 et on avait annoncé l'an passé que ça deviendrait un film, mais malheureusement pour l'instant le projet est complètement mort. C'est d'autant plus regrettable, nous dit ce papier, que le livre s'adresse clairement à un jeune public plutôt qu'aux fans d'horreur accros aux ouvrages de Stephen King. Je suis allée voir, je me suis dit, tiens, Stephen King, allons voir s'il n'existe pas de version française en livre audio de ce livre du grand maître, mais... Cela existe en anglais seulement, pas en français, mais pour ceux qui peuvent écouter des livres audio en anglais, eh bien vous pourrez entendre « The Eyes of the Dragon ». Sinon, si vous voulez écouter du Stephen King, écoutez des heures et des heures, que dis-je, des jours, des semaines, des mois de plaisir, parce que la liste est très très longue, surtout en anglais, mais quand même, on en trouve beaucoup en français. Je vous propose un petit montage de mon cru, un montage de 3 livres différents qu'on retrouve notamment dans le répertoire d'Audiolib, parce que c'est une production Audiolib, mais vous trouverez ça sur toutes les plateformes dignes de ce nom de livre audio. On va entendre un extrait de Sleeping Beauties, un extrait de 22-11-63 et enfin un extrait de L'Outsider.
De Stephen King, lu par François Montagu.
Je me suis retourné vers la grosse caravane en aluminium qui abritait le resto d'Al. Mais elle n'y était plus. Là où elle aurait dû se trouver, il y avait un sombre mastodonte digne d'un roman de Dickens. La Warrombo, tissage et filature, et elle tournait à plein régime. J'entendais distinctement le tonnerre des tambours atteindre et assécher les étoffes. Le tchak-wouf des immenses métiers à tisser qui occupaient autrefois tout le premier étage. J'avais vu des photos de ces machines, surveillées par des femmes vêtues de combinaisons et de foulards, dans le minuscule bâtiment de la Société d'Histoire de Lisbonne dans Main Street. Une fumée gris-blanchâtre s'échappait de 3 hautes cheminées qu'une grosse tempête de vent avait fait tomber dans les années 80. J'étais planté à côté d'un grand bâtiment vert en forme de cube. Le séchoir, ai-je tout de suite pensé. Il occupait la moitié de la cour et faisait 6 mètres de haut environ. Je venais de descendre une volée de marches, mais maintenant, il n'y avait plus de marche du tout. Aucun retour en arrière possible. J'ai senti monter la panique.
Jake!
C'était la voix d'Al, mais qui me parvenait très faiblement. Elle semblait altérée par un étrange phénomène acoustique, comme une voix portée sur des kilomètres au fond d'un long et étroit canyon.
« Tu pourras revenir de la même manière. tâtonne pour trouver les marches.
Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, lu par Marie Bouvier. Après avoir menotté la femme, Lila l'enveloppa dans la couverture de survie qu'elle conservait dans son coffre et l'aida à s'asseoir sur le siège arrière. En même temps, elle lui récita ses droits. La femme, muette maintenant, un sourire rêveur ayant remplacé son grand sourire éclatant, s'était laissée faire, mollement, quand Lila l'avait prise par le bras pour la guider jusqu'à la banquette de la voiture de patrouille. Arrestation effectuée et suspect maîtrisé en moins de 5 minutes. La poussière soulevée par les pneus du véhicule de police n'était pas encore retombée que Lila se dirigeait déjà à grands pas vers la portière du conducteur.
« Les observateurs de Fallen, on les appelle les Moths, Fallen, et Mothers, mères. Mothers, écrit comme les mères, mais ça se prononce pas pareil. »
Lila faisait demi-tour pour redescendre Balls Hill et retourner en ville quand sa prisonnière lui livra cette information. Elle croisa dans le rétroviseur les yeux de la femme qui la regardait. Elle avait une voix douce, mais pas particulièrement féminine. Son élocution trahissait une sorte de divagation et Lila n'aurait su dire si cette femme s'adressait à elle ou si elle parlait toute seule. « La drogue, pensa-t-elle. PCP, presque à coup sûr. Ou bien kétamine. »
L'Outsider, de Stephen King. Traduit de l'anglais par Jean Esch. Lu par Philippe Rizimont. Écoutez-moi, Ralph, je vous en supplie.
On vous écoute tous, dira Mage. On est tout ouï, mon gars.
Frank Peterson a été tué mardi après-midi. C'était marqué dans le journal. Mardi, j'étais à Cap City. Mardi soir et presque toute la journée de mercredi. Je ne suis rentré qu'à 9h ou 9h30. C'est Gavin Frick, Barry Houlihan et Lukesh Patel, le père de Babir, qui ont entraîné les gamins ces 2 jours-là. Le silence s'installa dans la voiture, pas même rompu par la radio qui avait été éteinte. Et pendant un moment, Terry crut, oui, il crut réellement, que Ralph allait ordonner aux flics qui conduisaient de s'arrêter. Il se tournerait ensuite vers lui en affichant un grand sourire gêné et dirait « Oh merde, on a fait une sacrée boulette, hein ?» Mais Ralph dit, sans se retourner, « Ah, voilà le fameux alibi. »« Hein ? Je ne comprends pas ce que vous êtes un type intelligent, Terry. Je l'ai compris dès la première fois que je vous ai vu, à l'époque où vous entraîniez Derek dans la Little League. Je savais que si vous ne passiez pas aux aveux immédiatement, ce que j'espérais, sans me faire trop d'illusions, vous nous sortiriez un alibi quelconque. » Il se retourna enfin. Et le visage que découvrit Terry était celui d'un parfait inconnu. Et je suis tout aussi certain qu'on va le mettre en pièces, car on vous tient solidement.
Sous la véranda, à Hollywood. geisha. L'île des sorts pour un pêcheur. C'est comme ça.
C'est bon, hein? Ah, Anne Victor, mais oui, j'aimais tellement ce duo-là. Hollywood, pourquoi Hollywood? Ben parce que je vous amène à Hollywood où les studios de la Warner ont décidé. En fait, c'est pas qu'ils ont décidé, c'est qu'à cause de la COVID-19, ils ont pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard pour quel projet? Eh bien, pour cette autre version de Dune qu'on attend avec impatience, surtout qu'elle a été réalisée par nul autre que le Québécois Denis Villeneuve. Et là, c'est ça, la COVID a rendu le travail difficile pour tout le monde, y compris pour cette production-là, qui sera du coup prévue... la sortie en salle, pour le moment, est prévue pour le 18 décembre, autrement dit, après-demain, quasiment. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, de ce Dune, dont la post-production a été complètement chamboulée par ce coronavirus. Le tournage était quasiment terminé, mais Denis Villeneuve avait encore des scènes qu'il fallait rajouter, et au fur et à mesure que les semaines, que les mois passaient, on ne pouvait pas tourner ces scènes-là, et surtout le montage. C'est là où ça a été difficile, c'est qu'il a fallu monter. Le projet s'est monté dans deux bureaux différents, ce qui est extrêmement difficile pour un réalisateur. Généralement, le réalisateur est à côté de son monteur. Et comme il le dit d'ailleurs lui-même, Denis Villeneuve, ça fait partie de la joie du créateur et de l'artiste d'être assis à côté du monteur. Alors, pour les raisons que nous savons, c'était pas possible. Alors, ça a été du coup beaucoup plus long. Mais en même temps, nous vivons aussi à une période bénie où... c'est possible. Imaginez le coronavirus il y a 50 ans. Tout était à l'arrêt, quand on pense à ça. Hein? Alors donc, Dune, j'ai pas envie de vous rappeler cette histoire qui est un petit peu compliquée. Hein? Le film va vraiment faire un gros plan sur la moitié du premier volume de la saga romanesque de Frank Herbert, hein, dire quand même le nom de l'auteur. On suit le jeune Paul Atreides, qui va être là interprété par Timothée Chalamet, alors que son père, Oscar Isaac, doit aller occuper Arrakis, planète mieux connue sous le nom de Dune. Donc ça, c'est le point de départ. Il faut rappeler aussi quand même que c'est le livre de science-fiction qui a été le plus lu au monde, Dune. Donc, bon, M. Herbert, je ne sais pas s'il a de la descendance, mais il ne devrait pas, être un gros, gros problème. Au-delà de plus de 20 millions d'exemplaires vendus du livre. Alors, on attend avec impatience je pense que ce sera la troisième version cinématographique de Dune, signée Denis Villeneuve. Et je suis allée voir, ça existe en audio, ça a été fait par Lizzie. C'est Benjamin Youngers qui lit Dune, une durée de 18 heures, imaginez, juste pour le livre 1-1. Je pense qu'il a dû travailler une année de suite. Mon Dieu, quel bonheur sur la lecture de Dune. En voici un petit extrait pour vous mettre un petit peu de ce livre à l'oreille.
Dors bien, rusé petit démon. Demain, tu auras besoin de tous tes moyens pour affronter mon Gome Jabbar. Et la vieille disparut. Elle entraîna la mère de Paul. La porte se referma avec un bruit sourd, et Paul se demanda « Qu'est-ce qu'un Gome Jabbar ?» Entre tous les récents bouleversements, la vieille sorcière était bien la chose la plus étrange qui lui fut apparue. « Votre révérence ?» Et elle s'était adressée à sa mère comme à une servante, une dame Bene Gesserit, concubine du duc et mère de l'héritier du nom. « Un Gome Jabbar ?» « Est-ce là une chose d'Arrakis qu'il me faut connaître ?» se demanda-t-il. Et il rumina les mots étranges. « Gome Jabbar, Kwisatz Haderach. » Il lui avait fallu apprendre tant de choses. Arrakis était si différente de Caladan. Tout ce qu'on lui avait récemment inculqué tourbillonnait maintenant dans son esprit. Arrakis, Dune, la planète des sables. Tufir Hawat, le maître assassin de son père, lui avait expliqué. Leurs ennemis mortels, les Harkonnen, avaient résidé sur Arrakis durant 80 ans. Ils avaient signé un contrat de semi-fief avec la compagnie Shom pour l'exploitation du mélange, l'épice gériatrique. À présent, les Harkonnen allaient être remplacés par la maison des Atreides qui recevrait Dune en fief sans restriction aucune. À première vue, c'était là une victoire pour le duc Leto, mais selon Hawat, cela représentait en réalité un péril mortel.
Je ne l'ai jamais vraiment lu, Dune. J'ai vu la version de David Lynch en 84, si je ne m'abuse, mais je n'ai jamais lu le livre. Et Jean-Sébastien, qui est, vous savez, à la régie fidèlement à chaque semaine, toi, est-ce que tu l'as lu, Dune?
Étrangement, cet été, je me suis attaqué à ce premier volume de Dune.
Et, c'est vrai?
Je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai pas abandonné, mais disons que j'ai pris une pause depuis 2 mois.
Pourquoi?
C'est de la science-fiction et... tout est à apprendre. Les noms des personnages sont inventés. Les nationalités, les planètes, les villes, les titres, les métiers. Donc, on entendait dans l'extrait les Genbija Cesare, en tout cas les Arrakis.
Oui.
Donc, ça ralentit beaucoup la progression de la lecture. Faut aimer, je pense, ce petit challenge additionnel.
Mais enfin, en tout cas, il y a plus de 20 millions de personnes qui l'ont adoré. Je garde des souvenirs de cette espèce d'énorme serpent justement dans le sable avec Sting, tout ça. Voilà. Alors donc, ce sera pour le 18 décembre, en principe, si tout va bien, là, qu'on pourra aller voir sur nos grands écrans cette nouvelle version de Dune signée Denis Villeneuve. Des fictions qui n'en sont pas, mais qui en sont. Bon, écoutez bien cette histoire. En 1920, Eric Sherman, on va dire ça comme ça, a publié un étrange récit de voyage, une centaine de pages intitulé « Les Papalagis ». L'ouvrage présente une série de discours de Tuivai, qui est un chef de tribu Samoa, qui porte un regard critique sur les Occidentaux, Papalagi signifiant « le blanc » dans la langue du chef. Sherman serait arrivé en Polynésie à la veille de la Première Guerre mondiale et il a travaillé alors comme journaliste pour la Croix-Rouge et passé par ce moyen qu'il aurait fait la rencontre de l'habitant de l'archipel. L'œuvre a été traduite en français par Dominique Roudière et elle est aujourd'hui éditée chez Pocket. Et elle propose un regard extérieur sur le mode de vie des Européens. Twivahi remet en question le concept de travail, entre autres, cette grave maladie de la pensée qui rend les gens vieux et laids en peu de temps, et il s'étonne de cette société inégalitaire qui a pour seule obsession l'argent. Alors que la jeune République de Weimar lutte contre la pauvreté de l'après-guerre et que la population voit le pays se transformer avec l'industrialisation, la philosophie simple de Twivahi et l'appel à un retour à la nature, évidemment, séduisent le public parce que c'était un espèce de d'essai écologique aussi avant l'heure que ce Schurman, appelons-le comme ça, cet Allemand, a fait connaître. L'ouvrage est si populaire qu'en 1978, le journal allemand Die Zeit le surnomme la Bible verte dans ses colonnes. En 1980, il finit même par intégrer, imaginez, le programme des lycéens allemands. Eh bien, malheureusement pour toute la génération de lycéens et ceux qui y croient encore, ceux qui sont en perte de repères, la Bible verte s'est finalement avérée une fraude littéraire. Est-ce qu'elle existe en audio? Non, elle n'existe pas. Mais j'ai trouvé, puisqu'on parle d'écologie, un livre fort intéressant. Je vous préviens, l'extrait qu'on va entendre est complètement, totalement, inévitablement déprimant. Extrait de « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ».
Cette disparition de la vie est parfois désignée par les scientifiques spécialistes comme un anéantissement biologique. Les populations s'effondrent. Certaines études concluent que le nombre de vertébrés a diminué de 60% depuis 1970. La situation de beaucoup d'invertébrés est pire encore. C'est bien un crime de masse, global, qui est en train d'être perpétré en toute impunité. Chaque année, la surface des villes progresse d'environ 400 millions de mètres carrés. La déforestation, à des fins agricoles, est plus inquiétante encore. À l'échelle mondiale, seul un quart des terres a échappé aux effets substantiels des activités humaines. Il n'en restera plus que 10% dans 30 ans, en grande partie dans les déserts, montagnes et régions polaires. La pollution tue probablement environ 3 fois plus d'humains que le sida. Elle cause environ 6 millions de morts par an, et progresse notablement, en particulier dans les pays pauvres et les lieux de développement industriel rapide. Aujourd'hui, 17 pays sont en situation de stress hydrique extrême, et 27 autres, dont certains en Europe, sont en situation de stress hydrique élevé. Pas moins de 25% de la population mondiale pourrait bientôt manquer d'eau.
Je vous l'avais dit que c'était complètement déprimant, mais je trouve que ce sont des chiffres parfois qu'il est bon de réentendre. Ceux-là sont issus de la plume d'Aurélien Barrault. C'est d'ailleurs lui qu'on a entendu. C'est lui le narrateur de ce livre, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui est paru en audio en 2019. Donc, voyez-vous, en octobre de l'an dernier, c'est tout à fait récent. Et là, je me disais, vous rendez-vous compte, si la pollution tue 6 millions de personnes par année sur la planète, rappelez-moi combien la Covid-19 en a tué. Quelques-uns, mais quand même. Et pourtant, c'est vrai qu'on s'intéressait. Ça ne viendrait pas l'idée de porter un masque à cause de la pollution, mais à cause du virus, oui, effectivement. Bon, bah écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis Clotilde Seille. Il me fait plaisir de réaliser et d'animer cette émission des livres plein les oreilles pour le compte de Canal M, la radio de Vues et Voix. Vues et Voix, le premier producteur de livres audio au Québec. En français. Je voudrais remercier Pauline Marois d'avoir accepté très gentiment, de répondre à mes questions dans la toute première partie de cette émission que je vous recommande d'écouter quand bon vous semblera en passant par notre site Canal M ou encore peut-être par balado. Si vous faites des livres plein les oreilles sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur moi, c'est sûr. Alors merci beaucoup et merci à Jean-Sébastien Laliberté. Et n'oubliez pas, glissez-vous des livres audio entre les oreilles. Salut.